Alors, nous pourrions méditer cet après-midi pendant quelques instants sur la grâce de Dieu. Quelques pensées, bien sûr, c'est un vaste sujet. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais nous allons essayer de méditer sur ce sujet. C'est vrai que depuis la création, il y a eu différentes périodes dans l'histoire de l'être humain. Certains ont appelé cela des dispensations. Bon. Alors on pourrait faire un rapide résumé. Certains ont appelé ce temps dans le jardin d'Éden ce temps de l'innocence. Vous savez que ça ne s'est pas bien terminé, puisque ça a été la chute, le péché de l'homme et l'expulsion du jardin. Plus moyen de s'approcher de l'arbre de vie, parce qu'il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien sûr. Ensuite, deuxièmement, il y a eu ce temps qu'on a appelé la conscience. Bon, ils n'ont pas trop écouté leur conscience, parce qu'ils ont rempli la terre de violence, et ça s'est terminé par le déluge. Bon, un troisième temps, qu'on pourrait appeler le gouvernement humain, peut-être, le temps géré par Noé et ses descendants. Vous savez que ça ne s'est pas bien terminé non plus. Ça aboutit à la tour de Babel et à la confusion des langages. Puis alors, un quatrième temps qui a été les promesses faites à Abraham, les patriarches. C'est ensuite, bien sûr, Abraham, Isaac et Jacob, et c'est ensuite qu'Israël s'est retrouvé donc à multiplier, on pourrait dire, et s'est retrouvé en Égypte, prisonnier en quelque sorte, esclave des Égyptiens. Dans un premier temps, ils ont multiplié, mais dans un deuxième temps, ils se sont retrouvés esclaves d'Égypte. Et puis, bien sûr, un cinquième point, ça a été la loi qui a été donnée donc au peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte à main forte et à bras étendus. Et puis, c'était l'ancienne alliance, on l'a appelée l'ancienne alliance, et puis on parle en sixième point de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Jean 1, 17 nous dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors la grâce, vous savez, bien sûr, c'est un temps, on pourrait dire, de la faveur de Dieu envers ceux qui méritent la condamnation, le châtiment. La grâce, elle est bien imméritée, c'est l'acte d'amour divin qui nous donne ce qu'il a de meilleur en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19, vous connaissez tous ces passages. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Littéralement, Dieu était réconciliant en Christ. Dieu était réconciliant en Christ. Alors nous arrivons à la fin, on a le sentiment, au moins, qu'on arrive bien à la fin, de cette dispensation de la grâce. Bientôt, de terribles jugements vont fondre sur cette terre. L'Église fidèle sera enlevée. Bien sûr, c'est faire un rêve bien confortable que de penser qu'elle le sera enlevée avant la grande tribulation. Moi, je sais pas quand, par contre, je vous dirai pas. Ce que je sais, c'est que c'est un secret. C'est un secret. Quand il était sur la terre, Jésus l'a dit, pour ce qui concerne le jour et l'heure et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Moi, ce que je sais, c'est ce qui est écrit. C'est 1 Thessaloniciens 4, 16. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On a chanté tout à l'heure notre espérance, gloire au Seigneur. Alors nous pourrions faire quand même une lecture, peut-être dans l'Épître aux Éphésiens, un passage que vous connaissez très bien, au chapitre 2. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Et nous commençons la lecture au verset 1er. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen.
Amen.
Nous remarquons quand même l'insistance de la parole de Dieu. Au verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » En vrai, cette insistance, là c'est des coups de marteau pour nous faire entrer cette grande vérité dans notre cœur. Il y a même, on pourrait dire, une progression de la pensée de la grâce dans les deux premiers chapitres aux Éphésiens. Par exemple, au chapitre 1er, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Selon la richesse de sa grâce. Et chapitre 2, verset 7, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. » Selon la richesse de sa grâce. Et ensuite, l'infinie richesse de sa grâce. La grâce, elle est infinie. Elle est à la dimension du Dieu vivant et vrai. Amen. Comme sa puissance est infinie, son infinie puissance, comme son amour est infini. Et gloire au Seigneur. Quel dommage quand de la grâce, nous n'avons qu'une vision peut-être un peu rétrécie. Nous restons à la porte des richesses que Dieu veut nous donner. On veut nous offrir, quand la notion de mérite commence à limiter notre vision et notre foi. La grâce, c'est un peu notre Canaan, ici-bas, un petit peu le pays où coule le lait et le miel. Or, la grâce de Dieu, elle n'est pas limitée. C'est pas un petit salut au rabais que le Seigneur est venu nous offrir. Un petit salut en solde. C'est une infinie richesse qui nous est offerte en Jésus-Christ, nous le savons bien. Paul, d'ailleurs, inspiré par le Saint-Esprit, disait aux Corinthiens, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est 2 Corinthiens 8, 9. « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » L'infinie richesse de sa grâce. Alors ces magnifiques passages bibliques inspirés par le Saint-Esprit révèlent l'œuvre magnifique de relèvement de l'homme déchu. Relèvement accompli par la grâce qui est en Jésus-Christ. De mort que nous étions, nous avons été rendus vivants avec Christ. On est émerveillé quand même devant un si grand amour manifesté à la croix. Que le Fils de Dieu s'offre dans des souffrances qu'on ne peut pas imaginer, même ça va plus loin que parce qu'il était chargé du péché des hommes. C'est quand même quelque chose de terrible. Ésaïe 53, vous connaissez ce passage, bien sûr, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, par ses portrissures, nous sommes guéris. La mort de Jésus Elle nous parle d'abord de châtiment. La mort de Jésus nous parle d'abord de châtiment. Il s'est chargé de nos péchés. Le saint, le juste, le parfait a été fait péché. Il a été fait péché pour nous. Pas pécheur, bien sûr, parce qu'il n'a pas commis de péché, mais il a été fait péché. C'est quelque chose de terrible pour le Fils de Dieu. L'agonie à Gethsémané, quelque chose de terrible. Par contre, le sang de Jésus, il nous parle de pardon, amen, de justification, de libération, il nous parle de vie éternelle. J'ai remarqué, tiens, chapitre 1er, verset 7, parole de vie, « Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal, et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. » Alors c'est un drame, bien sûr, quand après avoir commencé par la grâce, l'enfant de Dieu compte sur ses œuvres pour être sauvé, quand il revient à la pensée qu'il doit acheter le ciel en quelque sorte. Nous voyons les Galates, par exemple, qui après avoir reçu la grâce, on était arrivé à faire un mélange, une espèce de tambouille invraisemblable de loi et de grâce. L'apôtre leur dira deux fois qu'ils étaient dépourvus de sang. Ils étaient fous, autrement dit, hein, pour dire les choses simplement, hein, ils étaient fous. On a quelquefois entendu des chrétiens dire « J'ai pas le droit de faire ci, oh, j'ai pas le droit de faire ça, oh là là. » Et c'est pour la liberté, quand même, que Christ nous a affranchis, c'est pas pour l'esclavage de la loi. Nous sommes nés de nouveau en Christ et nous marchons en nouveauté de vie. Et la grâce, c'est justement d'être libre et de même pas en avoir envie. J'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. C'est pas seulement le droit, bien sûr, ça va beaucoup plus loin. La richesse, l'infinie richesse de la grâce, elle est bien au-dessus de tout cela. Alors, c'est vrai que nous étions dans un état de mort spirituelle, puisque, bien sûr, nous vivions avec notre corps, notre âme et notre esprit étaient morts à cause du péché. Nous ne pouvions pas avoir de communion avec le Seigneur. Mais Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes donc des ressuscités. Si nous sommes en Christ, Christ est ressuscité, il n'est pas resté dans la tombe. Alors, il ne s'agit pas d'une résurrection future. Le temps du Verbe, d'ailleurs, indique qu'il s'agit d'une chose acquise. Hein? Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. C'est déjà arrivé. C'est actuel. Spirituellement, nous sommes ressuscités. Nous sommes en Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce en Jésus-Christ. Le chef de l'Église, la tête de l'Église. Hein? Allez, allez. Le chef de l'Église est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ses rachetés sont en lui, en esprit. Ils sont spirituellement assis dans la gloire. Et je crois que nous avons besoin que le Seigneur nous garde cette vision dans notre cœur, parce qu'au fur et à mesure des difficultés de la vie, nous avons besoin de réaliser que nous sommes des ressuscités, qu'en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Ben, nous étions, avant notre conversion, nous étions dans la boue du péché. Bien sûr. Les portes de l'enfer, nous étaient toutes grandes ouvertes. Il n'y a pas de secret. Hein. L'infinie richesse de la grâce nous a arrachés à la boue pour nous faire asseoir dans la gloire, en Christ, au-dessus des anges. Ça, c'est quand même quelque chose qui est merveilleux, quoi. C'est incroyable. C'est l'infinie richesse de la grâce de Dieu qui, du pécheur perdu au plus bas, l'amène au plus haut dans la gloire. Merci Seigneur. Notre seul mérite, bien sûr, ça a été à l'écoute de la parole de Dieu et poussé par le Saint-Esprit de nous repentir et de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hein, je peux dire, moi, comme au psaume 40, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Et on peut dire que chaque difficulté du chemin, c'est une occasion pour nous de pénétrer plus profondément dans les richesses de la grâce de Dieu. Hein, ça ne doit pas être pour nous un sujet de découragement. Bon, c'est pas facile, on se décourage facilement quelquefois. Hein. Mais bon, mais ça doit être une occasion de nous affermir dans la foi, de réaliser encore plus profondément, mieux encore, l'infinie richesse de la grâce qui est en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Hein, parce que des difficultés, on en rencontre tous. Et on est vite découragé quelquefois. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous aide à lever les yeux, amen, vers notre Seigneur. Et réaliser qu'en esprit, nous sommes un avec lui, amen. Alors Dieu nous a fait grâce. Et il nous appartient d'être, je dirais, gracieux. Hein? Bon, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps où la sauterelle devient pesante. Hein. Il y a un temps où nous sommes peut-être un peu moins gracieux dans nos mouvements. Hein. Moi, je ne suis plus un petit rat d'opéra. Hein. Ouais. Je vais beaucoup moins vite pour me déplacer. Mais nos paroles, nos actes, ils doivent quand même être empreints de grâce. Hein. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce, à ceux qui l'entendent. Alors quand l'esprit de grâce remplit un cœur, il en sort une parole riche en grâce. Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pas une parole doucereuse, pas une parole flatteuse, oh là. Non, il y a la pensée d'une parole pertinente. Hein. La parole la meilleure en fonction de la circonstance, une parole inspirée par le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés, quelque part, à refléter le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Parce que, ici-bas, en quelque sorte, nous sommes ses témoins, nous sommes la bouche. Nous sommes l'élève de Jésus-Christ. Et vous savez ce qui est écrit au psaume 45 ? Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Eh oui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et que la grâce soit réellement répandue sur nos lèvres. Et que nous puissions être en bénédiction partout où nous passons. Alors, sommes-nous disposés à faire grâce, à être des gracieux, à être des gens qui gracient? Alors, il y a une parabole là que vous connaissez bien, c'est en Luc 16, le fameux homme riche qui avait un économe vraiment particulier qui dissipait ses biens. Bon. Les théologiens, ils sont arrachés les cheveux avec cette parabole-là, en essayant d'expliquer comment le maître pouvait louer l'économe infidèle qui, avant d'être viré, a continué encore à dissiper les biens de son maître en diminuant la dette de tous les débiteurs. Alors bon, on sait bien que c'est l'attitude avisée de l'économe. C'est par ces combines malhonnêtes que le maître a loué. Hein. Mais Jésus, je pense, poursuivait aussi un autre but par cette parabole. C'est déjà de ne pas nous enseigner une simple morale, mais nous rappeler qu'un jour, nous aussi, nous rendrons compte au Seigneur de notre administration des richesses de la grâce, parce que nous en sommes les bénéficiaires. Alors, l'homme riche, on pourra, bon, sans aller trop loin, mais l'homme riche, c'est qui ? Le plus riche, c'est le Seigneur. Hein. C'est une image. Le plus riche, c'est quand même le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Mais alors, on pose la question. Mais là, l'économe infidèle, c'est qui ? Oh, cherchez pas, c'est moi. Cherchez pas, c'est moi. Mais on pourrait dire quand même que c'est l'homme, oui, en général. C'est l'homme en général. Comment administre-t-il les richesses divines qui lui ont été confiées ? Est-ce qu'il les détourne à son seul profit ? Sont-elles simplement au service de sa vieille nature, oubliant qu'elle en est le vrai propriétaire? Est-ce qu'il attend de sa gestion? Il y a 15 jours, là, à Pont-Saint-Pierre, avant de me donner la parole, ils ont chanté « Je te donne tout ». Je suis arrivé, puis je leur dis « Bon, ben, vous êtes tranquille, vous n'avez plus de voiture, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus de compte en banque. Vous avez tout donné au Seigneur, maintenant vous êtes simplement des administrateurs des richesses divines. » Elle dit « Vous n'avez plus rien, vous êtes tranquille. » Eh oui, ben oui, bien sûr. Alors, quand il y a une offense à notre égard, par exemple, la dette de l'offenseur, dans le sens, quand on y réfléchit bien, elle est d'abord envers le Seigneur, c'est devant lui que la personne a péché. Hein? Il rendra compte. L'offenseur devra rendre compte au Seigneur de son offense, d'abord. Alors, je remarque quand même la dernière prière de Jésus, la première parole de la croix, disons. Hein, la première parole de la croix. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est l'expression d'ailleurs de son amour infini. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Alors, le saint serviteur, hein, c'est comme cela que les apôtres l'ont appelé quand ils ont été libérés, là, qu'ils ont prié tous ensemble et que le Saint-Esprit a fait bouger le local, là. Hein, ton saint serviteur Jésus. Eh bien, le saint serviteur, pas l'économe infidèle, hein, le saint serviteur, il pouvait dire à ceux qui le crucifiaient, écoute, mon, tu devais 100 mesures d'huile, bah, écoute, tu en dois maintenant 50 seulement, hein. Seigneur, ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne. Hein, et bien sûr, le Seigneur pardonne tout. Il remet réellement les compteurs à zéro quand on lui demande pardon, bien sûr. Mais là, dans ce cas-là, ceux qui le crucifiaient, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Il leur remet, en quelque sorte, un petit peu de leur dette. Puis le premier martyr de l'Église, Étienne. Qu'est-ce qui est écrit? Acte 6. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Plein de grâce et de puissance. Et alors qu'on lapidait, il se met à genoux, Étienne. Il se met à genoux et il s'écrie d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Le fidèle serviteur, là, pas l'économe, hein, fidèle, mais le fidèle serviteur doit plus dire à celui qui le lapidait, écoute, tu dois 100 mesures de blé, écris 80, quoi. Ben oui, en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas par sa nature humaine, ce n'est pas par ses sentiments qu'Étienne pardonne, demande la grâce de Dieu. Hein, c'est poussé par l'amour de Dieu qui a été versé en lui par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a répandu dans son cœur. Alors c'est vrai que nous aussi, on a le pouvoir, déjà, premièrement de demander pardon. Quelquefois on en parle moins, ça, la demande du pardon aujourd'hui. La repentance, la demande du pardon, ça commence à... Bon, c'est pas sympathique, on n'en parle pas trop. Et pourtant, demander pardon, c'est la première des choses. Hein? Et à notre petit niveau, nous avons bien sûr le pouvoir de pardonner. Nous pouvons dire à l'offenseur, je te pardonne, tu ne me dois rien pour cette offense. Jésus nous a enseigné de prier le Père. Hein? Il ne nous a pas enseigné de prier quelqu'un d'autre, hein? c'est son enseignement, hein? Notre Père. Et dans cette prière modèle, il dit... Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, oh, ce comme nous pardonnons, là. Il y en a bien qui aimerait l'effacer, là, c'est vraiment gênant, ça en arrangerait beaucoup. Hein. Ça arrangerait tous ceux qui ne pensent qu'à se venger. Je te pardonne, mais tu ne perds rien pour attendre. Ouh là là, la vengeance est un plat qui se mange froid. Aïe, 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 aïe. Oui. Ah, si vous saviez ce qu'elle m'a dit. Oh là là, si vous saviez ce qu'il m'a fait. Oui, Dieu. Et toi, t'as dit quoi? Et toi, t'as fait quoi alors? Et puis ton moi, qui normalement devrait être cloué sur la croix en état de mort, j'ai l'impression qu'il est bien vivant. Hein? Puisque tu ressens toutes ces blessures. Alors si c'était Jésus qui aurait répondu, il aurait répondu quoi? La bonne question, vous la connaissez toujours. Que ferait Jésus? Que ferait Jésus? Dieu nous a fait grâce, et est-ce que nous aurions l'audace de prétendre ne pas faire grâce aux frères ou aux prochains? D'être comme ce serviteur qui devait 10 000 talents, et qui, après avoir obtenu grâce, étranglait son compagnon pour les 100 deniers, et même qu'il l'envoyait en prison. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps quand même, vous allez vous lasser. La grâce, elle nous enseigne, vous connaissez ce passage de Tite, chapitre 2, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On a pu la toucher avec la main, elle a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Quelle richesse dans cet enseignement. La grâce nous instruit, nous enseigne le renoncement, encore quelque chose dont on ne parle plus beaucoup, et à vivre dans ce siècle en attendant la gloire. En attendant la gloire, en attendant le retour du Seigneur. Quand Paul parle à Timothée, on remarque quand même, quand il lui parle des chrétiens des derniers temps, il écrit que certains auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. On peut avoir les faux-semblants du christianisme tout en reniant la puissance, en fermant son cœur à la repentance, au renoncement, à la sanctification, au pardon. Je crois que nous sommes appelés vraiment, et j'en suis convaincu, à vivre à contre-courant. À contre-courant. Alors, le malheur, c'est qu'on vit à contre-courant du monde, mais quelquefois aussi, dans certains milieux chrétiens, on a l'impression d'être un peu à contre-courant. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a un fleuve là, qui entraîne tout sur son passage. Et pour se maintenir, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas renoncer à ce qu'on a reçu, il faut garder serré dans nos cœurs ce qu'on a reçu, afin de ne pas être entraîné vers la chute. La grâce, elle nous enseigne à veiller et prier, et le Saint-Esprit est là pour nous y encourager. Et on voit bien sûr malheureusement qu'il suffit quelquefois d'abandonner la réunion des frères, des sœurs, de se relâcher dans la prière, dans la lecture, dans la méditation de la parole pour inconsciemment être entraîné par le courant de ce siècle dans la mauvaise direction, on pourrait dire, vers la cascade finale. Combien il est vital que nous laissions la grâce nous enseigner à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice, pas la nôtre. Bien sûr, la sagesse et la justice, celle de Dieu, pas celle des raisonnements humains. Alors le temps de la grâce se termine, le Seigneur revient. Tout peut aller très vite, hein. Tout peut aller très 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 vite. Alors je vous laisse un dernier verset, hein, 2 Pierre 3, 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Amen.
Amen. Gloire au Seigneur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Ô Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta